Hello, Mortimer! Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur.
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Tanguy, Michel Vaillant, sur Vaillant de numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous, nous vous proposons ce soir une émission spéciale réalisée par Christian, consacrée à Paris dans la BD. C'est en effet à une visite en bande dessinée de la capitale française que nous vous convions. Mais auparavant, laissons Henri Vaillant, le père de Michel, préparer ses bagages.
Oh, cette valise!
Il fallait me la laisser faire, comme d'habitude.
Mais non, je suis en vacances, je veux me détendre en me livrant à des travaux inaccoutumés. Oh, et puis flûte, tiens, fais-la-moi cette valise.
Oh, est-ce que tu es nerveux, mon pauvre Henri?
Que veux-tu, ma chérie? Ces coups de fil de la tour me rendent fou.
Tu es vraiment obligé de rentrer à Paris?
Oui, dès que j'aurai embrassé Agnès et Jean-Pierre.
Tu pars avec Michel?
Oui, je veux qu'il assiste à la projection d'un film.
Comment? Tu prends l'avion pour aller au cinéma?
Paris et la bande dessinée sont de vieilles amies. Dès le début du siècle, des créateurs précurseurs du 9e art font de la capitale le décor privilégié des aventures de leurs personnages. Ainsi, en 1905, Anaïck Labornée, plus connue sous le sobriquet de Bécassine, apparaît. Bien vite, elle part travailler à Paris chez la marquise de Grantaire. En 1908, ce sont trois authentiques parigots qui commencent à arpenter le pavé parisien au gré de leurs filouteries et arnaques en tout genre. Croquignol, Ribouledingue et Filochard deviennent célèbres sous le nom des pieds nickelés. Aujourd'hui, les principaux éditeurs de BD sont à Paris, dans la lignée des pionniers du début du siècle, comme la dynastie des Offenstadt et leur société parisienne d'édition. Certes, la capitale française ne possède pas les parcours BD dont a su s'orner Bruxelles. Mais pour le prix d'un ticket de métro, on peut embarquer dans le monde des cités obscures de Skuyten et Peters via la station de métro Arts et Métiers. Celle-ci, entièrement carrossée de cuivre, a en effet été conçue par François Skuyten lui-même. Mais il suffit tout simplement de déambuler sur le pavé parisien pour que reviennent en mémoire quelques-uns des plus grands albums de bande dessinée directement inspirés de la capitale. C'est donc à une balade que cette émission vous convie. Nous irons d'abord dans le passé de Paris en relisant Astérix, Les Sept Vies de l'Épervier ou Sambre. Nous recevrons Franck Le Gall qui nous parlera de son Spirou, Les Marais du Temps. Puis nous verrons comment Jacques Tardy, Alain Daudier ou Tito dessinent le Paris contemporain avant de conclure par le Paris du futur, une ville apocalyptique sous la plume des auteurs de BD.
Écoutez-moi, vous les ringards écologistes du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons. Des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait remettre vos montres à l'heure. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage. Mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes des boulevards. Vos beaux discours, y en a plein le dos, y a du soleil dans les ruisseaux. La tour Montparnasse, elle est belle, et moi j'adore la tour Eiffel. Y a plein d'amour dans les ruelles et de poésie dans les gratte-ciels. Moi je suis amoureux de Paname. Du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage. Mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards, écologistes des grands soirs. La pollution n'est pas dans l'air, elle est sur vos visages blêmes. Moi j'aime encore les pissotières, j'aime encore l'odeur des poubelles. Je me parfume pas à l'oxygène, le gaz carbonique c'est mon hygiène. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais c'est la plage, mais le bitume c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage.
Captivant, le magazine de la bande dessinée sur RVE, vous propose ce soir une émission entièrement consacrée à la ville de Paris. Au temps de Jules César, une peuplade gauloise, celle des Parisies, a pour siège l'île de la Seine, que nous appelons aujourd'hui l'île de la Cité. Ce n'est qu'au IIIe siècle, au moment des invasions germaniques, que les Parisies donnent leur nom au lieu. À l'époque de César, on parle de Lutèce. Avant de rendre les armes en -52 à un lieutenant de César, Labiénus, les Parisiens participent activement à la résistance contre les armées romaines. Une fois conquise, Lutèce se développe autour de l'île de la Cité sur les rives de la Seine. La ville est plusieurs fois représentée dans Astérix, la bande dessinée de Goscinny et Uderzo. C'est même lors du passage d'Astérix et Obélix à Lutèce, dans l'album Le Tour de Gaulle, que le petit chien Idéfix se joint à eux.
Bon, on me fait signe, c'est à moi. Oh là, oh là, oh quel trac. Bon, j'y vais.
Oh, le trac, c'est le public qui voit la photo.
Tais-toi, Obélix, voyons. Alors, courage, assurance touristique.
René Goscinny utilisait Lutèce pour l'opposer au village des irréductibles gaulois, jouant avec le classique affrontement capitale-province. Il s'agissait là d'un de ces anachronismes qu'affectionnait le génial scénariste, la ville n'étant devenue capitale qu'en 508 sous Clovis. Quant au dessinateur d'Astérix, Albert Uderzo, il nous offre dans « Les lauriers de César » une magnifique vue d'ensemble de la cité. Pour sa part, et bien que gaulois comme Astérix, le héros de Jacques Martin, Alix, ne s'est jamais rendu à Lutèce. Mais il existe un volume de la collection « Les voyages d'Alix » qui est consacré à Lutèce, avec des dessins de Vincent Hénin. En 451, Sainte Geneviève, future patronne de Paris, soutient le courage des habitants de la ville lors de l'invasion d'Attila. La légende veut que ce soit son action qui ait préservé Paris de la fureur des barbares venus des steppes, les Huns. Cet épisode est illustré de façon particulièrement iconoclaste par Franck Bonnet dans le tome 5 de la série Attila mon amour, écrite par Jean-Yves Miton. On y découvre une Geneviève succombant au plaisir saphique que lui impose Lupa, la maîtresse d'Attila. Le Paris du Moyen-Âge est le décor de nombreuses bandes dessinées. Par exemple, Les Voyages de Gênes, une série réalisée par Yves Plateau avec le personnage créé par Jacques Martin. Dans un triptyque intitulé tout simplement Paris, Gênes, l'architecte, se mêle aux bâtisseurs de cathédrales. Ces trois albums relatent les deux siècles de la construction de Notre-Dame de Paris, l'apogée de la capitale sous les Capétiens, dont la dynastie fut marquée par les règnes de Philippe Auguste, Saint-Louis ou Philippe le Bel, jusqu'à la guerre de Cent Ans. Le triptyque illustre la vie quotidienne des Parisiens et la croissance de la ville hors de l'île de la Cité, ainsi que la naissance d'un style architectural né en Île-de-France, le gothique. C'est à partir de 1982 que paraissent les 7 tomes de la célèbre série de Cotias et Julliard, Les 7 vies de l'épervier, qui nous propose une description pittoresque mais réaliste de la ville de Paris au début du XVIIe siècle. On y suit l'histoire d'une jeune aristocrate de province, Ariane de Troil, qui se cache sous le masque d'un justicier nommé l'Épervier. Parallèlement, Cotias et Julliard nous racontent la conversion d'Henri IV, le fameux « Paris vaut bien une messe », puis l'assassinat de celui-ci par Ravaillac. À la fin des 7 vies de l'Épervier, Ariane monte à Paris et y gagne l'amitié du jeune roi Louis XIII. Il n'existe qu'une adaptation graphique des Mystères de Paris, le célèbre roman feuilleton écrit par Eugène Sue en 1842-1843, qui plongeait ses lecteurs dans le ventre de la capitale. C'est Raymond Cazenave qui dessine les Mystères de Paris en 1947 sous la forme de 191 bandes, avec les textes placés sous les images, publiées dans France Soir. De grande qualité, cette bande dessinée sera rééditée en album 30 ans plus tard. On reste au 19e siècle avec la série Sambre d'Isler, dont l'intrigue se situe dans le cadre historique de la Restauration française, mêlant des personnages historiques tels que Guizot et des personnages fictifs. L'œuvre apparaît fortement influencée par l'héritage romantique qui se traduit d'un point de vue graphique par le jeu sur les couleurs dominantes rouge et noir et d'un point de vue scénaristique par l'histoire des amours impossibles de Bernard Sambre, fils d'une famille aristocratique de province, et de Julie, fille d'une prostituée parisienne. Plus qu'un simple décor, Paris symbolise les passions, tensions et luttes des personnages qui apparaissent d'autant plus exacerbées qu'à cette acmé de leur histoire correspond celle de l'histoire, les héros arrivant dans la capitale en 1848 au début des troubles révolutionnaires. Tout de suite on écoute Gary Moore avec Parisian Walkways, une chanson en hommage à la capitale de la France, avant de recevoir notre invité Franck Le Gall.
Champs-Élysées, Saint-Michel and old Beaujolais wine. I recall that you were mine in those Parisian days. Looking back at the photographs, those summer days spent outside corner cafes. Ooh, I could write you paragraphs about
Marc Dacier.
Spirou et Fantasio, héros de la bande dessinée belge par excellence, se sont rendus dans la capitale française. D'abord dans Paris sous Seine, le premier des trois albums signés Morvan et Munuera, ensuite dans Les Marais du Temps, le deuxième volume de la collection Une aventure de Spirou par... Point de suspension.
Un jour de 1865,
un étranger a caché quelque chose
dans la cave du café. Il m'a ensuite demandé de la murer en disant qu'un jour lointain, le mur s'effondrerait.
Je reçois Franck Le Gall, auteur de l'album Les Marées du Temps. Dans celui-ci, Spirou et Fantasio utilisent une machine à remonter le temps inventée par Zorglub pour se rendre en 1867 au cœur de Paris. Franck, bonsoir. Première question, pourquoi avoir situé plus spécifiquement ton histoire dans le quartier du Marais ?
Tout bêtement, il n'y a pas à chercher ailleurs, c'est que j'ai vécu dans le Marais, que j'en suis évidemment tombé amoureux, comme tous les gens qui habitent là-bas, je suppose. Et puis, il y a encore ce côté 19e siècle dans le Marais qui est visible partout, architecturalement. Il y a des vestiges partout du 19e siècle, plus qu'à la place de l'Étoile, quoi. Et Paris, pour moi, c'était ça, quoi. C'était le vieux Paris, c'est le Paris du Marais. Mais ça aurait été intéressant de situer l'action, justement, dans tout ce que Haussmann a détruit et reconstruit, puisque à l'époque, c'est pas encore détruit. En 1865, c'est pas détruit. Il y avait moyen de tout situer à cet endroit-là et de montrer des quartiers qui n'existent plus. Ça aurait pu être émouvant aussi. Hein, mais... Malheureusement, le scénario ne permettait pas de tout montrer. J'aurais voulu montrer. Il y a des ponts, par exemple, des ponts qui ont été détruits peu après cette époque-là, ou des places qui ont été détruites. Et puis évidemment, donc, tout le quartier aujourd'hui des grands boulevards, quoi. Mais je ne pouvais pas montrer tout ça, donc j'ai opté pour le Marais que je connaissais mieux.
C'était une véritable cour des miracles au 19e siècle.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est parce que c'est ce que j'ai lu dans mes bouquins. J'ai été surpris moi-même. En fait, j'ai lu que... D'où les idées à la con de Zorglub. C'est que... Alors, à cause de quoi, je ne me souviens plus exactement. Toujours est-il que les gens qui avaient des hôtels particuliers les ont désertés. Ils sont allés s'installer à l'ouest de Paris. Et ces hôtels sont tombés en... pas en ruine quand même, enfin disons qu'ils étaient abandonnés, quoi. Ces trucs étaient abandonnés. Et le quartier est devenu très mal famé à l'époque. C'était un quartier a priori de commerçants, un quartier juif, et c'est devenu un quartier de voyous. C'est devenu un quartier d'escarpes, là, comme ça. Et donc c'était intéressant, on a un quartier de voyous, style les mystères de Paris, une espèce de bande de clampins, là. Et on a les hôtels particuliers à l'abandon, que j'ai pas trop montré, quoi. C'était des décors quand même difficiles à cerner, j'ai trouvé. Donc je les ai pas vraiment montré, les hôtels particuliers.
Franck Le Gall, merci.
Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre. L'aine du vieux ferré, les cris, la tempête. Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris. De musique et de poésie, les marchands mal appris, qui ailleurs ont déjà tout pris, viennent vendre leurs habits en librairie, en librairie. Si tendre soit la nuit, oh, ma Zelda, c'est fini. Montparnasse, Miles Davis qui sonne. Sagréco, tous les Morrison, leur Nico. Rive gauche à Paris. Oh, mon île, oh, mon pays. De musique et de poésie. De liberté est prise, elle s'est fait prendre, elle est prise, elle va mourir quoi qu'on en dise, et ma chanson la mélancolise. Mais nous sommes opiniâtres à ne pas mourir, à traîner sur les berges. Venez voir, on dirait Jane et Serge sur le pont des Arts. Rive gauche à Paris. Adieu, mon père.
sur 103.7.
Captivant, le magazine de la bande dessinée s'intéresse ce soir à la façon dont la ville de Paris est représentée ou racontée par les auteurs de BD. S'appuyant sur les conventions du feuilleton policier à l'ancienne, qu'il détourne avec humour, Jacques Tardy met en scène dans « Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec » les aventures d'une jeune femme ordinaire et flegmatique dans le Paris de 1911 à 1922. Adèle est amenée à enquêter sur des faits divers macabres qui se produisent dans les hauts lieux parisiens, qui deviennent les espaces par lesquels arrive le trouble de l'ordre établi et de l'équilibre urbain. Ainsi, dans le premier tome des aventures d'Adèle Blanc-Sec, par exemple, la place des Vosges, le cimetière du Père-Lachaise, deviennent le théâtre des agressions d'un ptérodactyle. Les tomes suivants obéissent à la même mise en scène, la menace se concentre principalement sur quelques grands lieux publics célèbres.
Quand je vais faire des photos, par exemple, sur des lieux réels, je les étale mes photos, je ne sais pas encore ce que je vais prendre comme cadrage. Je peux très bien avoir un escalier, par exemple, avec le personnage qui va monter vers moi, ou alors je serai en bas et on verra le personnage de dos. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je fais toutes les photos, tous les angles de vue que je peux faire. Et c'est seulement après, en étalant mes photos, que je vais choisir l'angle de vue qui me semble le plus efficace en fonction de ce que j'ai à raconter. Ça ne sera pas nécessairement la photo la plus flatteuse, etc. C'est celle qui sera la plus efficace. Bon, une fois que j'ai fait ce choix, j'interviens en tant que dessinateur, c'est-à-dire que je ne vais pas seulement reproduire cette photo. Si je fais une photo, c'est parce que c'est plus pratique. À une époque, j'allais faire des croquis sur place, mais enfin bon, on est au XXe siècle, je fais donc des photos. Mais après ce document, je vais tricher avec, c'est-à-dire que je vais élargir les rues, je vais l'éclairer comme j'en ai envie, je vais mettre en valeur tel ou tel élément, toujours en fonction de ce que j'ai à raconter, de la lisibilité. Je vais éliminer des éléments, par exemple, qui vont brouiller la lisibilité de l'image, toujours en fonction de ce qui se passera dans cette image, dans l'image suivante et en gros dans la page, qui a pour seul but de raconter une séquence de l'histoire en question, qui formera un album en fin de parcours. C'est avant tout la narration.
Dans leur série Miss Patouche, Hubert et Kerascoët proposent, comme Tardy, le point de vue d'une femme, d'une héroïne, sur le Paris de la première moitié du XXe siècle. Dans les années 1930, Agathe et Blanche, deux sœurs venues de province, se sont installées dans la capitale et travaillent comme bonnes à tout faire. Au début de l'histoire, la représentation de Paris semble être celle d'une ville festive, à l'image d'Agathe, légère, insouciante, qui fréquente le week-end les guinguettes des bords de Marne. Cependant, cette représentation est rapidement nuancée par la mise en lumière des inégalités sociales en matière de logement notamment, puis d'une ville dangereuse sur laquelle pèse la menace du boucher des guinguettes qui assassine Agathe. Blanche décide d'enquêter et est amenée à découvrir et intégrer un Paris insoupçonné, celui des maisons de joie, des intrigues et réseaux politiques et mafieux. C'est encore une héroïne qui nous fait visiter le Paris de l'occupation dans le diptyque de Jean-Pierre Gibras, Le vol du corbeau. Le 18 juin 1944, Jeanne, la jeune résistante imaginée par Gibras, dénoncée par une lettre anonyme, est arrêtée par la police française. Le jour même, François, un cambrioleur sans scrupules et quelque peu cynique, connaît le même sort et se retrouve dans la même cellule que Jeanne. À la faveur d'une alerte, les deux jeunes gens s'évadent et s'échappent par les toits avant de trouver refuge à bord de la péniche de René, un ami de François. Cette fuite à travers Paris occupé est l'occasion pour Gibras de nous offrir de splendides images aquarellées des fameux toit de la capitale ou des quais de la Seine. On reste dans le Paris de l'occupation avec 120 rue de la Gare, le premier des Nestor Burma illustré par Tardy. Le détective privé parisien Nestor Burma, l'homme qui met le mystère KO, est à l'origine le héros d'une série de romans écrits par Léo Mallet et intitulé « Les nouveaux mystères de Paris ». Après 120 rue de la Gare, les autres Nestor Burma, adaptés par Tardy puis par son successeur Moineau, présentent Paris dans les années qui suivent la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 60. André Julliard, on l'a vu en début d'émission, a dépeint Paris au XVIIe siècle, mais la capitale à l'époque contemporaine l'a également inspiré, notamment pour son chef-d'œuvre paru en 1994, Le Cahier Bleu. On y suit l'histoire de la belle Louise qui habite un appartement du 15e arrondissement dont les fenêtres donnent sur le métro aérien, ce qui va déclencher une suite d'événements sentimentaux et tragique. Julliard explique ainsi le choix de Paris comme décor pour Le Cahier Bleu. J'ai toujours à cœur, même lorsque je fais de la bande dessinée historique, de rechercher une certaine authenticité. Il était donc important de pouvoir travailler sur une ville réelle, et puisque Paris est l'endroit où je vis quotidiennement, Fin de citation. En 1981, Alain Daudier a créé un héros parisien par excellence, Jérôme K. Jérôme Bloch, un jeune et sympathique détective privé qui vit et travaille dans le 18e arrondissement. Pourtant, contrairement à Julliard, Daudier n'est pas parisien mais dunkerquois, ce qui explique pourquoi les vues de Paris qui figurent sur les premières planches de L'ombre qui tue, le tome 1 de Jérôme K. Jérôme Bloch, sont en fait inspirées de ce que Daudier voyait par sa fenêtre, c'est-à-dire Dunkerque.
Heureusement, nos amis Bob Moran et Bill Ballantyne ignoraient tout de ces dramatiques événements tandis qu'il savourait la douceur du printemps parisien.
Quel temps merveilleux, Bill. Regarde tous ces gens aux terrasses des cafés.
Qu'est-ce qu'on entend pour faire comme eux, commandant? C'est l'heure où les lions vont boire.
Ah, les lions! Est-ce que tu aurais leur goût aquatique?
Moi, jamais bu une goutte d'eau de ma vie, sauf en me lavant les dents. Parlez-moi d'un bon whisky et... Hé, hey, commandant, ça ne va pas? Commandant!
Oui, eh ben, qu'est-ce que c'est?
Un homme qui se trouve mal.
Lui, jamais perdu connaissance de sa vie.
On va peut-être un infarctus.
Le commandant, il a un cœur d'acier.
Bon, ben alors, il est bourré, ton copain.
Dis donc, toi, tu veux que je t'écrase pour te faire passer sous une porte, hein?
Ah, cette jeunesse, quand même.
Hey, commandant, wake up, boy. Wake up.
Vous inquiétez pas, on va le soigner, voilà l'ambulance.
Déjà?
Ben oui, on a dû prévenir un agent.
Ouais, ils ont fait vite.
Dans La Revanche de l'Ombre Jaune, un album de Verne et Coria, Bob Moran visite l'un des plus spectaculaires endroits de Paris, bien que souterrain, les catacombes. Prompt à enflammer les imaginations par leur côté mystérieux et inquiétant, les catacombes ont inspiré de très nombreux auteurs de BD. Elles apparaissent dans un Lapineau de Trondheim, La couleur de l'enfer, dans un Adèle Blanc-Sec de Tardy, Momie en folie, dans un Blake et Mortimer de Jacobs, L'affaire du collier, dans les tomes 4 et 5 de Docteur Monge, la série de Bardet et Chabert, etc. En 2003, les éditions de l'Harmattan sortent un livre d'Isabelle Papiot intitulé « La banlieue de Paris dans la BD ». L'une des séries les plus abondamment analysées dans cet ouvrage est tout naturellement « Tendre banlieue » créée par Tito en 1983 qui raconte les histoires d'adolescents vivant en banlieue parisienne. De manière simple et optimiste, Tito aborde certains problèmes de société, le chômage des parents, l'illettrisme, le handicap, mais également des histoires sentimentales, des groupes de musique qui se forment. Tendre banlieue se déroule essentiellement dans la ville de Châtenay-Malabry dans le 9-2, dont on peut reconnaître la Butte Rouge, la Coulée Verte ou le collège Pierre Brossolette.
J'ai l'air, j'ai suffisamment de souffle pour parler des heures par cœur sur le zinc. J'ai l'air, l'époque je fais l'esbrouf autour d'un verre, je tiens la barre, je trinque, prospère. Facteur c'est mon gagne-pain, je mets le turbo sur mon vélo. Ma roue, ce cours c'est le bar du coin, la descente fait tourner ma tête. Parigo, de Parigo, et mon mégot au coin du bec. Je parle en argot, et les ragots, je les débite avec ma tête. De Parigo, et mon mégot au coin du bec. Je parle en argot, et les ragots, je les débite, je les éjecte. J'ai l'air micheton, avec ma gueule, des talons, et tous les soirs, je fais marrer le patron, le 5 à 7, c'est chez Paulette. On lève nos verres, on a le verbe haut, j'ai l'air d'aplomb. J'ai l'impression d'être sur le pont, et c'est le boxon sur mon bateau, c'est sans fardeau. C'est bientôt l'heure d'aller étrangler le mulot. Parigo, parigo, et mon mégot au coin du bec. Je parle en argot, et les ragots, je les débite avec ma tête. Parigo, parigo, et mon mégot au coin du bec. Je parle en argot, et les ragots, je les débite, je les éjecte. C'est moi qui commande, c'est ma tournée. Y'a ceux qui tirent la langue, c'est mon QG. Tous les soirs je retrouve ma bande. De Parigo, et mon mégot au coin du bec. Je parle en argot, et les ragots, je les débite avec ma tête. De Parigo, et mon mégot au coin du bec. Je parle en argot, et les ragots, je les débite, je les éjecte. Dans tout le quartier, on nous connaît, et nos histoires. Restaurant dans ce bar, on est léger, on est hilar. Pour oublier qu'on sera encore seul ce soir, il y a ma ville, il y a les gens, il y a au bout de la rue mon petit appartement, il y a mon cœur qui bat encore. Sous ma casquette, il y a ma tête. De Parigo, et mon mégot au coin du bec. Je parle en argot, et les ragots, je les débite avec ma tête. De Parigo, et mon mégot au coin du bec. Je parle en argot, et les ragots, je les débite avec ma tête. De Parigo, et mon mégot au coin du bec. Je parle en argot, et les ragots, je les débite avec ma tête. De Parigo, et mon mégot au coin du bec.
divan.
1 000 000 000 000 000 000 chevaux.
Marc Dacier.
Paris dans la BD, un vaste sujet qui nous amène en cette fin d'émission à nous intéresser à l'avenir de la capitale française telle que l'imaginent les auteurs de bande dessinée. Disons-le tout de suite, l'optimisme n'est pas de mise. À moitié détruite, ultra polluée, soumise à un régime dictatorial ou vendue à un consortium financier, Paris cesse d'être, dans les siècles qui suivent le XXe, la première destination touristique du monde. Dans son chef-d'œuvre paru en 1980, La foire aux immortels, Enki Bilal nous décrit une ville qui, en 2023, a survécu à deux guerres nucléaires, non sans être dévastée et rongée par la pauvreté et la misère. Seul le centre de Paris est habité par la classe dirigeante, fortement favorisée et protégée par une puissante armée. La périphérie, quant à elle, s'étend à perte de vue et est occupée, suite à la construction d'un immense astroport, par des êtres venus de toutes parts, aussi bien des extraterrestres que des aventuriers perdus. Bilal est loin d'être le seul auteur de bande dessinée à nous proposer une vision apocalyptique de Paris dans le futur. C'est le cas par exemple de deux séries de Didier Convard, Chat et Neige, dessinées par Jean. Dans Voyageurs, de Pierre Boisserie et Eric Stalner, l'État français, en faillite, a dû vendre Paris au XXIe siècle à un consortium financier. Rebaptisé Grand Paris, la capitale est coupée en deux par un mur qui suit la Seine. Rive droite, les favorisés du système, rive gauche, les parias. Dans Antares de Léo, l'air de Paris en 2196 est quasiment irrespirable et la cathédrale de Notre-Dame est à moitié détruite, conséquence d'une guerre de religion entre l'Occident et l'Islam. Au cours des 8 aventures de Blake et Mortimer dessinées par Jacobs, les deux Anglais parcourent le monde du Tibet à Londres en passant bien sûr par Paris, le temps de 3 aventures, celle de SOS Météor, celle de l'affaire du collier et celle du piège diabolique. Dans ce troisième album, Mortimer, victime d'une machination posthume du professeur Milok, est envoyé dans le futur contre son gré. Il va découvrir le Paris du 6e millénaire, un Paris en ruine qui a été détruit par une guerre nucléaire en 2075.
Station 3, direction Paris-Centre. God damn, mais c'est un ancien métro. Seulement, quel diable signifie cet autographe idiote ? Station avec deux S, Paris sans S et centre S-A-N. Tout cela est plus que singulier et cache peut-être un piège. Oh, qu'importe, allons de l'avant. Ce sacré tunnel doit bien conduire quelque part. Ah, il n'y a pas de doute, c'est bien un métro. Mais où donc sont les rails ?
C'est la fin de ce numéro spécial de Captivant consacré à Paris dans la BD et réalisé par Christian. On se quitte comme d'habitude avec quelques notes de jazz, Coleman Hawkins interprétant Under Paris Skies, sous les cieux de Paris. Bonsoir à tous et à la semaine prochaine.